autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Nicolas Benita à la réalisation pour allumer le feu aujourd'hui et nous interroger ensemble autour du feu sur cet élément fondateur essentiel à notre humanité. Pourquoi le feu nous fascine depuis la nuit des temps? Comment l'apprivoiser, le comprendre et le maîtriser dans toute son ambivalence, à la fois créateur et destructeur, chaleureux, convivial mais aussi violent et dévastateur? Le feu ami ou ennemi, le feu miroir de notre humanité, une exposition à la Cité des Sciences à Paris met le feu en scène dans tous ses aspects, des plus flamboyants aux plus sombres. Pour apprendre à l'allumer, à l'entretenir et à l'éteindre, en compagnie de nos invités, la physico-chimiste Pascal Desgroux et le lieutenant-colonel sapeur-pompier de Paris Gabriel Plus, autour de la question du feu, ami ou ennemi, point d'interrogation, bienvenue. Bonjour Gabriel Plus.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous autour du feu. Bonjour Pascal Desgroux.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Nord à Lille pour entretenir le feu qui s'expose dans tous ses états à la Cité des Sciences à Paris. Le feu ami ou ennemi, point d'interrogation, c'est aussi le titre de cet ouvrage qui accompagne l'exposition parue aux éditions d'Uno, une sorte de dictionnaire de A comme allumé, à V comme volcan, en passant par C comme cendre, F comme flamme et R comme risque. Ouvrage auquel vous avez participé, Pascal Desgroux. Vous êtes physico-chimiste, je crois que vous préférez le terme de combustionniste, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Directrice de recherche CNRS au laboratoire de physico-chimie des processus de combustion et de l'atmosphère. Pour vous, le feu, c'est un ami ou c'est un ennemi ?
La question nécessite deux réponses. Mmh. Forcément, c'est un ami, puisque le feu, c'est ce qui va nous apporter l'énergie dont on a besoin pour vivre, que ce soit pour se chauffer, cuisiner, se transporter. Mmh. Et bien sûr, l'ennemi, le feu, les incendies, tout le danger qu'il y a autour du feu, quoi.
Gabriel Plus, vous êtes lieutenant-colonel sapeur-pompier de Paris et porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Pour vous, le feu, c'est évidemment plutôt l'ennemi que l'ami.
Alors, effectivement, en premier abord, c'est un ennemi. Le feu tue. J'ai bien compris que le feu, c'était la vie, évidemment. Je souscris complètement à cette définition. Mais le feu tue, et notre mission, c'est de sauver les personnes, sauvegarder les biens. Donc, effectivement, il nous appartient de lutter contre le développement du feu, donc lutter contre le feu.
Alors, pour lutter contre le feu, pour le combattre, il faut aussi le connaître. Qu'est-ce que c'est que le feu ? Quelle est sa nature ? On va demander à la combustionniste que vous êtes, Pascal Desgroux, une définition.
Alors, je parlerai plutôt de combustion. Tout d'abord, la combustion, on peut définir ça de façon simple comme étant un ensemble de réactions chimiques exothermiques. Ça veut dire que ça dégage de la chaleur entre un combustible. Donc, des combustibles, il y en a toute une variété très importante. Ça peut être le bois, ça peut être le pétrole, ça peut être l'hydrogène, et un comburant, donc qui va transporter de l'oxygène.
Un comburant.
Oui, de l'oxygène, c'est essentiellement l'air, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, ou dans l'industrie, même dans les moteurs. Mais ça peut être aussi d'autres sources oxygénées. Voilà, et ce qui est important dans la combustion, c'est que finalement, c'est le dégagement de chaleur qui accompagne les réactions chimiques, qui sera la source d'énergie qui va être celle qui sera exploitée depuis plusieurs siècles pour se chauffer, etc.
Et même pour notre industrie aussi, bien sûr, aujourd'hui, et puis surtout dans les moteurs
de la combustion interne, les moteurs d'avion.
Tous les moteurs qui nous transportent. Alors si je demande aux pompiers que vous êtes, Gabriel Plus, une définition du feu, ça se rapproche un peu de ce que vient de dire Pascal Desgroux.
Oui, bien sûr, c'est similaire. On parle de triangle du feu qui a été abordé.
Triangle du feu.
Le triangle du feu, les conditions pour lesquelles... grâce auxquelles le feu va se développer. Donc il faut une source d'ignition, qu'elle soit électrique ou autre. Il faut un comburant.
L'oxygène qui va
faire que le feu se développe ou qu'il va s'étouffer, qu'il va s'éteindre de lui-même. Et le troisième facteur, bien sûr, c'est le combustible. Il faut de la matière pour que le feu croquent cette matière et se développent et prennent de l'intensité. Mais effectivement, pour nous, si on pouvait le définir par un mot, c'est chaleur. Voilà, chaleur parce que risque. Et chaleur par rapport à laquelle il va falloir se protéger pour pouvoir trouver ce développement, en limiter les effets, notamment les fumées, on en reparlera plus tard. Et puis, pour se prémunir du feu, se protéger pour sauver.
Autour de la question le feu ami ou ennemi, je propose de commencer à petit feu avec le mix forcément incandescent, oui c'est ça, et ambivalent de Nicolas Benita.
Partons à l'aventure, il faut attaquer les pierres à feu.
Bon, je vais déposer mon petit bois, je mets des allume-feu.
Vous avez du feu ?
Avec, les hommes pourront fabriquer des outils, construire un habitat, chasser, élever des animaux, se vêtir, se réchauffer.
Je cuis, je réchauffe, j'écarte les animaux intrusifs, voire dangereux. Il y a le rôle social.
Avec le feu, les hommes pourront soumettre la nature hostile et survivre.
Elle est bonne, Camille. Mon secret, une bonne brève.
Ah oui, il est fort, Yves. Ouais. Il a posé la viande sur le feu. Et à un moment donné, wow, il a retourné la viande.
Tu sens pas le brûler ?
Ah ouais ? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi ?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends ?
La bougie d'allumage produit une étincelle. Le mélange gazeux explose et pousse le piston vers le bas. La soupape d'échappement s'ouvre et en remontant, le piston expulse les gaz brûlés.
On a tout fait pour que le feu soit éteint. On l'a contenu jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Là, ils sont arrivés.
Ce soir, on vous met... Ce soir, on vous met le feu.
C'est chaud. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, Gabriel Plus ? Nicolas Benita s'est bien amusé avec le feu. Il a joué avec le feu.
Le feu, effectivement, c'est la vie. Donc, on allumait le feu. C'est la lumière. Hein,
vous étiez fasciné, vous, par le feu au départ ? Est-ce que les pompiers sont fascinés aussi par le feu ?
Oui, clairement. Le feu, c'est l'adrénaline du pompier. Hein. C'est là où il va le donner le meilleur de lui-même. Il va le donner en équipe. On ne va jamais... attaquer le feu seul, on va l'attaquer en binôme, et donc face
attaquer
au feu...
Attaquer le feu, hein,
on va attaquer
ça.
Le feu, ah, ouais. Ouais. Je dis attaquer le feu parce que les pompiers de Paris sont de culture militaire, et on s'est appuyé sur les principes de la guerre, hein. Comme je disais tout à l'heure que le feu tuait, on s'est imprégné des principes de la guerre du maréchal Foch pour construire notre attaque du feu. Hein, on va le fixer, on va le déborder, et ensuite on va le détruire.
Oui, on dit les soldats du feu. Hein.
Exactement, soldats du feu, soldats de la vie. Voilà, donc le feu, on en a besoin pour se chauffer, s'éclairer. Le feu, c'est la vie, on est impressionné par le feu. Et le feu, c'est l'adrénaline du pompier, dans le sens où il sait que le risque est maximal, et qu'il est prêt à donner sa vie pour celle des autres, clairement, puisque sa mission, c'est sauver. Hein, notre devise, pompier de Paris, c'est sauver ou périr. C'est assez radical quand même.
Radical quand on s'intéresse au feu. Alors, est-ce que le feu vous fascine aussi, Pascal, vous qui vous intéressez à sa combustion? Alors, c'est plutôt le côté vivant du feu, si j'ose dire, qui nous maintient en vie, nous êtres humains, qui nous permet de chauffer les aliments, de nous réchauffer et de nous réunir autour du feu aussi. Mais c'est tout ça,
oui,
le feu.
Oui, en fait, moi, pour ce qu'on étudie dans un laboratoire de recherche, quand on travaille sur la combustion, ce sont des feux qu'on maîtrise parfaitement, à l'inverse des feux qui se propagent dans les forêts. Donc nous, on va vraiment contrôler absolument la combustion qu'on va étudier. Et oui, j'ai toujours été fascinée par la couleur des flammes, la variété de couleurs que l'on peut observer. Et c'est d'ailleurs sur ces aspects de couleurs que j'interviens un peu, au niveau de la recherche, si vous voulez.
Et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre, vous, Pascal, sur la manière dont la combustion en elle-même du feu, les fumées, les couleurs, les flammes qui s'en dégagent, justement?
Alors, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il se passe dans une flamme. Donc, comment le combustible va se transformer dans une flamme, c'est-à-dire dans un endroit à très très haute température. Donc, ce combustible qui va... à la fin, nous rejeter dans l'atmosphère un certain nombre de polluants, donc que l'on connaît, les oxydes d'azote, des particules de suie, mais aussi le CO2 dont on entend beaucoup parler. Et donc, nous, on s'intéresse à mieux comprendre comment les mécanismes chimiques très élémentaires eh bien, se produisent dans les flammes. De manière, en fait, à ensuite pouvoir construire des modèles qui permettent ensuite de pouvoir faire des prédictions. Sur des dimensionnements de moteurs, de turbines, ou bien de pouvoir prédire en fonction du dimensionnement d'un moteur, et bien la quantité de polluants qui sera rejetée dans l'atmosphère, par exemple.
Alors ça, c'est le feu qui nous concerne aujourd'hui, les polluants que nous rejetons aujourd'hui dans l'atmosphère, parce que le feu a toujours, ou presque toujours, accompagné l'humanité. En tout cas, il a des lobes de l'humanité. Parmi les plus anciennes traces de feu attribuées à l'homme, elles datent en gros de 40 000 ans. Parmi elles, il y a celles que l'on peut retrouver dans les grottes, et notamment dans la grotte Chauvet, qui est une grotte ornée de peintures rupestres. Aujourd'hui, des chercheurs ont réussi à analyser les charbons de bois qui ont laissé par les hommes, à l'époque les Aurignaciens, dans cette grotte, il y a donc un peu moins de 40 000 ans, date à laquelle ont aussi été réalisées ces peintures rupestres. Je propose d'écouter l'éclairage d'une chercheuse, Isabelle Théru-Parisot, directrice de recherche au CEPAM, à l'université de Nice-Sophia Antipolis, spécialiste de paléo-environnement. Elle a analysé ces anciens échantillons de charbon de bois dans la grotte Chauvet en Ardèche. Charlie Dupuis, notre reporter, l'a joint par téléphone.
Le charbon est vraiment la matière première, le fusain qui a été utilisé directement sur les parois pour dessiner ces peintures. Les charbons de bois, ils sont d'abord les résidus des foyers qui ont été faits à l'intérieur et à l'extérieur de la cavité, pour l'éclairage, pour éloigner les animaux par exemple, mais ils ont pu servir à différentes choses. Et ce sont les charbons de bois qui sont issus de ces foyers qui ont ensuite été utilisés pour réaliser les peintures sur les parois. Mais on suppose qu'une partie des feux ont été faits précisément pour la réalisation des peintures sur les parois.
Et qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre sur ce sujet-là, donc du feu à la préhistoire ?
Beaucoup de choses. On connaît assez peu la fonction des foyers, par exemple. On a du mal à distinguer précisément les foyers qui étaient utilisés plutôt pour de l'éclairage ou plutôt pour la cuisson, par exemple. Et puis surtout, à propos de Chauvet, il resterait à faire une étude vraiment sur les propriétés mécaniques de ces charbons de bois qui ont été utilisés pour la réalisation des peintures, c'est-à-dire quels étaient les procédés de fabrication par le feu de ces fusains pour réaliser les peintures. Qu'est-ce qu'il fallait, une combustion un peu étouffée ou bien au contraire une combustion vive. Voilà, ça reste quelque chose qui serait à étudier dans les prochaines années.
Est-ce que vous avez une question pour nos invités ?
Alors, une question pour les invités. Les foyers à l'intérieur de la grotte, certains foyers sont à environ 170 mètres de l'entrée, ce qui est assez loin de l'entrée et donc de l'accès de l'oxygène dans la cavité. Et voilà, on se demande, il y a des études qui sont faites sur la possibilité de faire des feux si loin de l'apport en oxygène, et quelle est la limite de l'apport en oxygène pour que le feu puisse la combustion puisse se produire.
Qui peut répondre ? Pascal, Gabriel, Pascal ?
Oui. Bah, j'ai quelques éléments de réponse, mais il faudrait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'une combustion puisse avoir lieu, il faut un combustible, bien sûr, et de l'oxygène. Donc, avec cette question, je ne sais pas quelle est la proportion d'oxygène qu'il reste à 170 mètres de profondeur, je suppose, ou peut-être non, peut-être
170 mètres de l'entrée de la grotte. L'entrée. Hein, ouais.
Donc en fait, si vous voulez, la combustion, elle peut s'effectuer pour un certain ratio entre le combustible et l'oxygène. C'est ce qu'on appelle les limites d'inflammabilité. Donc à partir du moment où il y a suffisamment d'oxygène pour entrer dans cet intervalle de limite d'inflammabilité, on peut concevoir que le feu puisse être réalisé. Voilà.
Gabriel, vous auriez une réponse là-dessus. Il faut évidemment de l'oxygène, mais il faut quoi ? Qu'il y ait une quantité d'oxygène suffisante pour que les hommes puissent respirer ? Ça suffirait pour alimenter un feu ?
Oui, pour éclairer un petit peu cette limite d'inflammabilité, effectivement, il faut de l'oxygène, mais il en faut vraiment très peu. Prenons un exemple aujourd'hui dans nos constructions très hermétiques. hein, faites de béton, d'isolant, de double vitrage, avec des portes blindées. À partir du moment où un feu se développe, où les ouvrances sont complètement fermées, le contenant est calfeutré, on s'aperçoit toutefois que le feu arrive à se développer. Ce qui me fait dire qu'il faut très peu d'oxygène, voire très peu de combustible, pour que le feu s'entretienne lui-même.
C'est ça le danger, d'ailleurs. C'est ça la complication, elle maîtrisait.
Exactement,
hein.
C'est ça le danger, parce que en fait, le feu va, ce que l'on dit dans notre jardin, le feu va couver. La matière va se consumer très lentement, et aujourd'hui, des matières comme un sofa, de la mousse, va dégager des fumées très âcres, très, très toxiques. Et il va falloir faire très attention pour le soldat du feu, quand il va rentrer dans ce contenant complètement hermétique dans lequel s'est développé le feu, à ne pas provoquer un apport d'oxygène qui va enrichir ce feu et faire en sorte que ce feu se développe tout d'un coup.
C'est-à-dire qu'en fait, les pompiers, quand ils arrivent, il faut qu'ils fassent attention à ne pas au contraire alimenter le feu.
Exactement. Le pompier
ou n'importe qui,
l'habitant, effectivement, celui qui est confronté en tout cas au sinistre. C'est pour ça que l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre, doit être faite avec précaution.
On va y venir, d'ailleurs, vous donnez énormément de conseils, même des tutos sur internet de prévention, on va y venir ensuite. Mais qu'est-ce qui est le plus dangereux dans un feu comme ça, qui couve et puis qui peut se développer? Ce sont les flammes en elles-mêmes ou c'est les fumées? C'est quoi?
Alors c'est d'abord les fumées pour celui qui se trouve confronté au feu, même s'il est privé en partie d'oxygène. Au départ, il n'y aura pas de flamme. Par contre, la matière va se consumer tout doucement, comme je le disais, et d'abord, avant les flammes, provoquer un maximum de fumée. Et le plafond de fumée étant de plus en plus important, l'apport d'oxygène très réduit, va permettre aux flammes de s'enflammer.
Ce sont les fumées qui s'enflamment.
C'est les fumées qui peuvent s'enflammer. Les fumées brûlent. Et comme je disais, effectivement, donc cet apport d'oxygène peut provoquer un développement très brusque de l'incendie. Et là, on va parler d'effet thermique, d'explosion de fumée.
C'est la chaleur qui va faire monter le tout.
La chaleur est présente dans le volume. Et l'oxygène va initier ce développement du feu. Mais à partir du moment où l'oxygène arrive d'une manière très rapide, alors que le feu n'est pas encore développé, on peut assister à un effet thermique, un flashover par exemple, ou un backdraft, qui est une explosion de fumée.
Pascal, vous-même vous étudiez à la fois la fumée, alors vous avez parlé de la couleur des flammes, les suies qui s'en dégagent, vous étudiez tout ça dans votre laboratoire?
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre sur les cendres, sur la fumée, sur qu'est-ce qui est intéressant pour nous?
En fait, une des voies que l'on étudie, c'est de comprendre finement les paramètres de combustion qui permettent de diminuer les émissions de polluants. Donc, ça nécessite des études expérimentales, c'est-à-dire qu'on va regarder finement à l'intérieur d'une flamme toutes les espèces chimiques qui se forment et qui se consument.
Et qui se voit quoi dans les couleurs des flammes?
Oui, par exemple, on utilise beaucoup de méthodes spectroscopiques, c'est-à-dire qui sont basées sur le rayonnement. C'est justement, la couleur d'une flamme va nous donner une indication sur la composition chimique de la flamme. Alors bon, on utilise des méthodes un petit peu plus sophistiquées que la simple émission de couleur, l'émission, ce qu'on appelle l'émission propre de la flamme, mais à partir du rayonnement des molécules en fait, qui composent une flamme, ont la possibilité d'émettre un rayonnement dans certaines couleurs. Et à partir de l'analyse de ce rayonnement, on peut remonter à la concentration d'espèces chimiques dans les flammes. Et quand on a les évolutions de ces espèces chimiques tout le long d'une flamme, eh bien on peut mieux comprendre quels sont les mécanismes chimiques qui rentrent en jeu. Et à partir de là, peut-être trouver des voies un petit peu alternatives qui vont permettre donc d'éviter la formation de certains polluants plutôt que d'autres, disons.
Autour de la question le feu, ami ou ennemi, je propose Ambivalence oblige d'écouter une pépite, une braise incandescente dénichée sur la toile. Gaston Bachelard, oui, le philosophe, la psychanalyse du feu, remixée et rappée sur RFI.
Je tisonne l'univers.
Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis?
Mais pour faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça,
C'est totalement différent.
Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain. On nous révitant alors l'orgueil d'un Prométhée. L'imagination nous consacre héros cosmique. La volonté de puissance s'exerce par l'imagination de puissance, toujours prête à outrer toutes les images de la force. D'ailleurs, soit dit en passant, la volonté de puissance est-elle autre chose que l'imagination d'une puissance imaginaire?
Oui, l'énergie émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elle se répand facilement, prête à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais il dominera ton destin et te consumera.
Le côté obscur du feu Bachelard en Maître Yoda remixé en version rap sur RFI autour de la question du feu en compagnie du lieutenant-colonel Gabriel Plus et de la psycho-physico-chimiste plus exactement combustionniste Pascal Desgroux. Nous continuons de nous interroger sur le feu comme élément essentiel de notre puissance mais aussi de notre humanité. C'est l'éclairage du préhistorien Pascal Depape.
Moi, je pense que le feu est un des éléments fondateurs de l'humanité telle qu'elle est maintenant. En termes culturels, en termes anthropologiques, au sens relation entre les humains, entre des groupes humains, etc., etc., ça fait partie des éléments fondateurs. Et ces éléments fondateurs de l'humanité actuelle, ils ont été posés il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. C'est le feu, c'est l'expression symbolique, artistique, peu importe comment on l'appelle, la solidarité à l'intérieur d'un groupe. Toutes ces choses-là sont les valeurs qui sont toujours celles de l'humanité actuellement. Ce qui change, c'est la technique. Je ne pense pas que le feu ait accéléré une évolution biologique. Moi, je pense qu'elle est indépendante. Je pense, en revanche, que le feu a accéléré une évolution culturelle. Et c'est ça l'intérêt du feu.
Le feu a accéléré une évolution culturelle, Pascal, mais aussi une évolution technique, évidemment.
Oui, bien sûr. Par exemple, les moteurs, ça reste quand même une invention formidable.
Les moteurs à explosion.
De pouvoir contrôler la combustion et de pouvoir propulser un engin à partir l'énergie thermique qui va être transformée en énergie mécanique, ça c'est quand même une réalisation extraordinaire.
C'est le feu qui est la base de notre révolution industrielle et aussi, alors pour le meilleur comme pour le pire, vous étudiez les polluants qui se dégagent. Dégage des feux générés par l'homme, mais c'est vraiment le feu qui est à la base de notre puissance et de notre maîtrise sur Terre. Même si on ne maîtrise pas le feu, on maîtrise beaucoup d'autres choses avec le feu.
Oui, tout à fait. Oui. Malheureusement, la combustion, en général, c'est là, on brûle du carbone, que ce soit les combustibles fossiles essentiellement, mais même les combustibles végétaux, ce sont des sources de carbone et donc de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Donc là, on est un petit peu à un tournant de notre civilisation, je pense.
Et toujours lié au feu, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de notre feu et du feu quand même.
Voilà. Dans mon jargon, je parle plutôt de combustion, mais effectivement, il va falloir qu'on trouve d'autres modes d'énergie.
Pour nous chauffer, pour nous transporter. On est quand même toujours avec le feu, Gabriel, plus dans cette ambivalence. Nos auditeurs sur les réseaux sociaux, il est à Cotonou, au Bénin, Djibril, nous le rappelle. Donc le feu est à la fois ami et ennemi. Et il nous dit, grâce à la maîtrise du feu, l'humanité continue de progresser. Le feu non dompté est source de catastrophe et de désolation. Vive le feu dompté, le feu maîtrisé, ce qui doit faire plaisir aux pompiers que vous êtes. Il ajoute, lorsque le feu disparaîtra, peut-être avec l'extinction du soleil, ben nous aussi, on se dit que notre destin d'humain est quand même irrémédiablement lié au feu, Gabriel.
Oui, on situe une croisée de chemin entre ce feu qui est la vie et ce feu qui est destructeur. En tout cas, il nous permet de progresser techniquement, et j'en veux pour preuve le fait que les dispositions constructives évoluent pour se prémunir du feu. On construit différemment, on isole différemment, on fait en sorte que le feu ne naisse pas dans l'habitation. Et c'est très important dans une mégapole comme Paris, où la densité urbaine est conséquente, d'éviter que le feu se développe en infrastructure, en superstructure. Et avec le Grand Paris, on pense aujourd'hui que la prévention prend tout son sens.
Oui, vous avez vraiment, en tant que sapeur-pompier de Paris, une vraie mission aussi de prévention. Alors, vous l'avez dit au niveau de la construction, hein, au niveau de la conceptualisation des bâtiments, mais même aussi au niveau de chacun d'entre nous. On sait beaucoup de choses sur le feu, mais finalement, on ne sait pas, nous, à quel point ça nous menace. Et ça peut brûler très, très rapidement, en plus, une pièce.
Oui, ça peut brûler très rapidement à partir du moment où on l'utilise. C'est un risque. On a besoin de l'utiliser. On a besoin de se retrouver autour d'un feu de cheminée, on a besoin de se retrouver autour d'un plat chaud. Mais effectivement, on peut être tous confrontés à un risque domestique. Beaucoup de feux sont accidentels et proviennent de feux de cuisine.
C'est la majorité des feux que vous...
C'est quasiment la majorité, effectivement, de ces naissances de feux, donc un certain nombre d'outils de prévention, de dispositions constructives qui vont empêcher le feu de se développer, avec des portes qui vont l'isoler, avec des extinctions automatiques, avec une évacuation surtout des occupants en toute sécurité pour éviter d'être piégés par ce feu. Donc là, le pompier, effectivement, au niveau de la prévention, participe dès l'origine des dispositions constructives, des normes à respecter architecturalement pour que ce feu ne naisse pas dans les bâtiments que l'on construit aujourd'hui, que ce soit en infrastructure, en souterrain ou en superstructure. Ça, c'est une partie de la prévention.
En souterrain, c'est aussi un souci.
C'est aussi un souci. On peut évoquer le Grand Paris Express, pour lequel nous sommes complètement mobilisés, dès lors qu'on va creuser...
Donc, en amont déjà, pour savoir comment on va pouvoir protéger ces
souterrains. En amont, le pompier donne son avis pour que, encore une fois, il puisse faire en sorte que les personnes qui se trouveraient confrontées à un sinistre puissent évacuer correctement. Voilà. Et donc, dans les grands chantiers qui sont évoqués aujourd'hui, où on creuse sous terre jusqu'à 50 mètres pour créer des gares multimodales, faire en sorte de rejoindre Orly-Roissy, par exemple, eh bien, d'émettre un certain nombre de restrictions et de possibilités pour la population, pour ceux qui vont y vivre, pour ceux qui vont y travailler, pour ceux qui vont s'engager à construire ces nouvelles voies de ces nouvelles connexions, de pouvoir évacuer en toute sécurité.
Autour de cette question du feu, allez, je ne propose pas de l'éteindre, je propose de l'allumer le feu sur RFI, quand les Brigitte reprennent le tube de Johnny.
Autour de la question.
Allumer le feu 1, allumer.
Allumer le feu, étonnante version des Brigitte sur RFI, ça vous plaît, Gabriel Plus?
Alors, je préfère celle de Johnny, hein, clairement.
Ah,
elle est plus dynamique,
elle
est plus rythmée, elle est plus enlevée. Allumer le feu, oui, en fait, comme je vous le disais, le feu pour le pompier, c'est quand même son adrénaline, c'est le sens de tout son engagement, puisque ça va demander des moyens, ça va demander du temps, ça va demander. Et ça donne sens à cet entraînement opérationnel du quotidien. Donc
il vous
allumer
faut un
le
peu
feu
plus
de l'engagement,
hein.
Quoi. C'est allumer le feu de l'engagement et c'est faire battre le sang dans nos veines pour que celui d'autrui, celui qu'on va sauver, puisse continuer aussi à circuler.
Autour de cette question du feu, ami ou ennemi, une exposition donc à la Cité des Sciences à Paris met le feu en scène dans tous ses états et dans toutes ses dimensions. Exposition dans laquelle les jeunes visiteurs peuvent même s'essayer à votre costume, hein, au costume des pompiers. Écoutez voir ce qu'en retiennent Léo et Basile au micro de notre reporter Alice Milot.
Bah, il fait chaud. J'imagine pas la chaleur à l'intérieur des combinaisons quand les pompiers sont face au feu. Ils doivent avoir super chaud. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de me déguiser en pompier et là, c'est la première fois, donc je suis vraiment content.
Et le feu, ça te fait pas peur ?
Ce qui me plaît, c'est la variation de couleur des flammes. De rouge, orange, jaune. C'est très beau. Ça me fait toujours pas peur, je joue avec le barbecue dans le jardin.
Tu joues avec le barbecue dans le jardin ? Bah, c'est maman qui doit être contente.
Non, il joue pas, il aide à l'allumer, une fois de temps en temps. Mais non, j'aime plutôt pas qu'il joue avec le feu d'ailleurs.
Vous justement, en tant que maman, vous constatez cette fascination de vos petits pour le feu ?
Oui, le feu c'est toujours très intrigant pour eux. On a une cheminée à la maison, ils aiment bien regarder. C'est vrai qu'ils sont toujours très intrigués quand on allume le barbecue de voir quels sont les produits qu'il faut mettre pour que ça fonctionne. Donc oui, c'est intrigant. Pour eux et pour nous aussi d'ailleurs, c'est fascinant. C'est hypnotisant, je trouve, les flammes. Donc j'aime bien le regarder, mais dans mon canapé de loin, pas trop près. Et voilà, juste pas les gros feux, ça me fascine pas les gros feux, mais les petits feux, je trouve ça très, très réconfortant à observer. C'est de la méditation.
C'est presque de la méditation que d'observer un peu un feu. Pascal Desgroux, vous voulez réagir à cet éclairage ?
Oui, j'ai bien aimé le petit enfant là qui réagissait par rapport aux couleurs des flammes, parce que en ce qui me concerne, bien plus tard, à l'âge adulte, c'est ce qui me fascinait également quand j'ai commencé à faire de la recherche sur les flammes. Voilà, donc c'est amusant.
Et ces couleurs, justement, orange, c'est peut-être pas celles les plus...
C'est pas ce qui est le mieux pour l'environnement, parce que la couleur orange, c'est lié à l'émission du carbone à très très haute température. Donc en fait, dans une combustion, lorsqu'il manque de l'oxygène par rapport au combustible, au carbone disponible, en fait, eh bien, le carbone va se transformer en particules de suie. Donc des particules qui vont être jetées dans l'atmosphère, et ce carbone, lorsqu'il est à très haute température, il émet cette couleur orangée qui est très très belle, mais par contre lorsque les particules vont se refroidir, et bien elles vont se retrouver dans l'atmosphère.
Donc il vaut mieux des flammes bleues que des flammes orangées, si je vous suis.
Alors les flammes bleues, mais elles sont plus chaudes par contre, voilà, mais elles sont moins nocives en fait.
On parlait de chaleur, Gabriel Plus, ce petit garçon disait lui-même il fait extrêmement chaud dans vos combinaisons de pompiers, enfin non seulement il y a le feu, mais en plus il fait très chaud.
Ouais, on voit comme le feu impressionne, fascine. Le fait de revêtir un casque, une tenue de pompier, hein, c'est le rêve de tout garçon, on peut dire. Mais c'est vrai, ça se confirme. Ouais, cette exposition, elle est l'occasion aussi de susciter des vocations, hein, clairement. Hein, je pense que...
Vous avez besoin de...
Permettez-moi de me le dire, effectivement, on a besoin de jeunes qui cherchent un sens, à donner un sens à leur vie, et ma foi, quand on donne la sienne au service des autres, c'est un sens, c'est une source de bonheur réelle.
Ça donne un sens, mais est-ce que vous avez peur, vous, devant des feux, enfin, qu'est-ce que vous faites de cette peur-là, ou à ce moment-là, elle n'est plus là, ou...
Bien sûr qu'il peut y avoir de la peur, bien sûr qu'il peut y avoir de l'appréhension, bien sûr qu'il peut y avoir de la crainte pour sa vie, pour celle des autres. Mais encore une fois, c'est un métier qu'on ne fait pas tout seul. C'est un travail d'équipe, et soudé, au coude à coude, on s'engage pour lutter contre le feu, pour sauver son prochain. C'est génial.
En même temps, aujourd'hui, en tant que pompier, vous êtes confronté à des feux, on l'a dit, il y a des accidents domestiques, mais pas seulement. Vous êtes aussi confronté à d'autres risques aujourd'hui, des risques terroristes, des risques d'explosion, des risques d'explosion industrielle aussi. Enfin, c'est très très large l'éventail.
Gabriel. Oui, c'est très large, effectivement. Hein. Le soldat du feu, soldat de la vie. Effectivement, on est confronté au risque et à la menace. Hein. 80% de nos engagements sont des engagements, des interventions liées au secours à victimes, qu'elles soient sur une situation classique ou qu'elles soient sur une situation exceptionnelle comme les attentats que vous citez. Mais à chaque fois, c'est de faire en sorte de prolonger la vie et d'extraire ces victimes d'un environnement malfaisant, malveillant, et de les mettre en sécurité et de leur prodiguer les gestes qui sauvent. Et aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut prodiguer ces gestes, quelle que soit la situation, pour lui-même. Hein, le citoyen est
faut
en quelque sorte
hein.
le premier acteur de sa sécurité, et pour les autres. Oui, il faut les apprendre, oui. Mais quand on sait qu'il y a 50 000 décès par an en France qui sont liés à un arrêt cardio-respiratoire, et que le massage cardiaque, ma foi, c'est quelque chose d'assez simple. Même si c'est mal fait, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire.
Un petit truc que vous m'avez dit, on n'a pas passé la musique, mais Staying Alive, c'est ça comme musique pour pratiquer les massages cardiaques?
Staying Alive, c'est la musique idoine pour pratiquer un bon massage cardiaque, puisque, en fait, en respectant ce rythme de musique, on fait un bon massage cardiaque.
Ben voilà,
et
voilà.
Le pompier peut vous y aider. À distance, nos opérateurs 18 permettent aux citoyens, même celui qui n'a jamais fait un massage cardiaque, de le réaliser et de bien le faire. Ça sauve
des
vies.
Par téléphone à distance. En France, je crois que Pascal Desgros a une question pour vous, Gabriel.
Oui, bah c'est une question qui n'a rien à voir avec le feu, mais c'était simplement, je m'interrogeais sur le fait qu'il y a sûrement des femmes aussi pompiers.
Oui, 3% de femmes sont dans nos rangs, évidemment. Oui, okay. Oui, tout à fait, bien
d'accord,
sûr.
D'accord.
C'est un métier exigeant, mais c'est un métier ouvert à tous, oui.
Voilà, on va en écouter une dans quelques temps, mais juste avant, je propose d'écouter un autre feu et une autre maîtrise du feu en musique. C'est Bette Ditto qui l'allume tout de suite sur RFI.
Autour de la question. Got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love.
Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. Now I'm a believer, my word's as good as gold. But walk on a
Fire, c'est Bette Ditto qui nous met le feu sur RFI. Heureusement, nous sommes en direct avec le lieutenant-colonel sapeur-pompier de Paris, Gabriel Plus, et en duplex avec la combustionniste, chercheuse en combustion, Pascale Desgroux, autour de la question du feu et de la maîtrise des feux de forêt, particulièrement destructeurs. Je propose d'écouter l'éclairage d'une autre pompier, Pascal, vous vous demandez s'il y avait des femmes pompiers. Elle s'appelle Marta Nascimento, spécialiste des feux de forêt en Catalogne. Témoignage extrait du site de l'exposition sur le feu à la Cité des Sciences.
On ne peut pas éliminer le feu sans éliminer la nature, et du coup nous avons été amenés à cohabiter avec lui. Il a fallu comprendre comment il agit, comment il pense, comment les changements dans l'environnement modifient son comportement. Comment l'utiliser aussi, car il y aura toujours des incendies. Imaginez-vous face à un feu de forêt avec des flammes de 10 mètres. La lance ne sert à rien. Et ce qu'on peut faire pour l'éteindre, c'est de se placer à distance et d'allumer un autre feu. Ce petit feu élimine la végétation, autrement dit le combustible. Et quand le feu principal arrive, il n'y a plus de combustible. C'est une des bases du contre-feu, priver l'incendie de son combustible. On peut aussi combattre un incendie avec un feu d'une telle intensité qu'il consume tout l'air nécessaire au feu initial, de sorte à l'étouffer. Cette technique est plus complexe. Les incendies sont de plus en plus vastes et de plus en plus intenses. Et nous ne pouvons pas les combattre de n'importe quel endroit. Si on veut venir à bout d'un incendie, il faut surtout décider où et quand on va intervenir. Et si nous faisons ce travail, c'est pour réussir à venir à bout de l'incendie. Il est important de savoir comment il va évoluer et d'anticiper. Si vous savez comment le feu va évoluer, vous avez une chance de le vaincre.
Je vous ai vu, Gabriel Plus, hocher la tête plusieurs fois pendant ce témoignage de la pompier Marta Nascimento. Comprendre le feu, savoir comment il va évoluer, quitte à en allumer un petit à côté pour supprimer le combustible, c'est quelque chose qui vous parle, évidemment.
Oui, bien sûr. Alors, même s'il y a des techniques complètement différentes...
Selon qu'on est dans les forêts
voilà,
et en ville.
Exactement,
hein,
effectivement, entre la forêt... Mais il y a beaucoup de techniques qui sont similaires, et l'objectif est le même, c'est de l'arrêter et d'éviter qu'il se développe. De l'éteindre au final. Voilà, donc il faut comprendre comment il va se développer. Alors il se développe d'une manière différente en forêt, et on va faire des contre-feux, effectivement, on va le priver du combustible, on va le priver du comburant. Mais c'est un petit peu la même chose dans l'infrastructure,
dans les bâtiments.
Voilà. Mais après, tout est différent s'il s'agit d'un immeuble haussmannien ou d'un immeuble plus moderne. Toujours est-il qu'on va... effectivement, le priver dans ce triangle du feu de l'une de ses composantes pour encore faire en sorte qu'il soit maîtrisé et puis complètement éteint et pour éviter aussi qu'il reparte.
Et oui, c'est ça.
Ça, c'est un gros souci pour nous. Les fumées sont le premier, l'éclosion de l'incendie en est un. Mais ensuite, c'est de ne pas quitter trop vite les lieux et d'être sûr que le feu ne va pas reprendre. Or, aujourd'hui, on isole les bâtiments. Mais derrière ces isolations, il y a toute une série de structures en béton qui contiennent du fer, qui se déforment et qui brûlent aussi. Et donc il s'agit de vérifier que ces structures ne sont pas déformées et ne se consument pas alors que nous sommes partis.
Ah, c'est que le feu peut sembler arrêter, mais on n'en est pas sûr. Enfin.
On n'en est pas sûr, il faut le vérifier. Notre travail s'arrête vraiment quand la matière ne se consume plus.
En tant que sapeur-pompier de Paris, vous avez des liens, hein, je crois, avec d'autres sapeurs-pompiers des grandes villes du monde, New York notamment, Tokyo aussi.
Oui, bien sûr. Alors, les pompiers de Paris, c'est le troisième corps de sécurité urbaine au monde, après Tokyo et New York. Donc on a un lien étroit avec New York, on a les mêmes principes d'action. On a quasiment les mêmes techniques.
Vous partagez d'ailleurs les
informations,
les techniques.
Bien sûr, on partage, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Mmh. Hein. Et c'est vrai dans le domaine du risque, c'est vrai aussi dans le domaine de la menace. Donc on échange d'une manière très étroite aujourd'hui. D'ailleurs, nos camarades de New York viennent prochainement sur Paris pour échanger en juin sur les risques et les crises qu'aujourd'hui on n'aurait pas évoquées, auxquelles on ne serait pas confronté, que ce soit des catastrophes naturelles, débordement de la Seine, mais aussi... par exemple, une cyberattaque. Aujourd'hui, sans la source électrique, on ne peut pas faire grand-chose dans nos villes. Eh bien, il faut l'imaginer. Faut se préparer au pire. Et effectivement, en échangeant avec ces grandes villes, Singapour aussi en fait partie de nos correspondants privilégiés, on peut échanger sur les risques auxquels on a été confronté dans ce domaine du risque, mais aussi dans ce domaine de la menace.
Et vous pouvez aussi, du coup, former. Je crois que vous avez pas mal de formations sur le continent africain, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest.
Complètement, on a un lien très étroit et très historique avec l'Afrique. Au Burkina Faso, on est lié avec la protection civile. Et on a un détachement, Pompiers Paris, qui participe de cette construction de la protection civile, qui participe à la formation du corps des pompiers locaux et qui participe à l'évolution technologique pour lutter contre les feux et les crises qui peuvent subvenir dans ces pays.
Ouais, là aussi, ça avance, l'évolution technologique contre le feu. Pascal Desgroux, sur quoi travaillez-vous en ce moment précisément dans votre laboratoire? Sur quelle combustion et quelles questions?
Eh bien là, on a été sollicité pour participer à un contrat européen, puisque suite au scandale Volkswagen, donc qui montrait qu'il y avait quand même beaucoup de particules de suie qui étaient émises par les moteurs diesel, en fait, il y a des études qui sont faites derrière les moteurs essence. Donc je reviens d'une campagne de mesure en Allemagne, derrière un moteur essence, dont je ne dirai pas la marque, donc pour détecter en fait des particules et surtout diagnostiquer leur taille, parce que Et bon, il s'avère que les moteurs essence, malheureusement, eh bien, émettent également des particules. Mmh. Que tout ce qui est filtre à particules, eh bien, ça ne suffit pas. Parce que les particules, il y a des particules de toute petite taille, de quelques nanomètres, c'est vraiment extrêmement petit, qui arrivent, eh bien, à sortir de ces filtres. Et donc, ces petites particules, plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses pour la santé, en fait. Parce qu'elles viennent vraiment, elles sont absorbées par l'organisme, par les poumons et même par les tissus, etc. Donc, voilà, je travaille concrètement là-dessus.
Et donc, là aussi, au fond, plus les connaissances avance et plus aussi on découvre l'effet néfaste de ces particules, comment s'en prémunir, mais aussi le nombre important de tout ce que dégagent nos nombreux feux, même ceux qui ne se voient pas.
Tout à fait, oui. L'idéal, c'est quand même d'éviter quand même la formation de particules de suie, de se ramener vers des combustions qui sont plus stoichiométriques, c'est-à-dire qui ont un bon équilibre entre le carbone et l'oxygène. Malheureusement, ces combustions qui sont un peu plus propres, eh bien, c'est celles qui vont fournir le plus de CO2. Donc, vous voyez, on est toujours dans un
problème, cercles un peu vicieux,
un dilemme important. Donc, par rapport au réchauffement climatique lié aux émissions de CO2 et puis des problèmes de santé publique qui sont très importantes.
On est toujours dans cette ambivalence et dans ces paradoxes du feu qui sont un peu le miroir de notre condition humaine. J'ai quand même l'impression quand on parle du feu, on parle beaucoup de nous. Est-ce que vous auriez pour terminer peut-être, Gabriel, plus un message à faire passer, de prévention peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier?
Eh bien, bien sûr. Le premier acteur, c'est celui qui est confronté au feu. Si on prend un feu de cuisine, un début de feu de friteuse, où voilà, il faut chercher, il ne faudra pas l'éteindre avec de l'eau, mais peut-être le couvrir avec une serpillière mouillée ou mettre le couvercle. Si le feu est naissant, bien entendu, s'il n'a pas pris une ampleur trop importante, auquel cas c'est les services de secours qui procéderont à l'extinction de cet incendie. Alors voilà, si le feu ne peut pas être étouffé, hein, prenons ce feu de fritus, ce feu de friture, oui tout à fait, eh bien il s'agira de prisonnier ce feu et de le laisser dans l'enveloppe impartie, c'est-à-dire
l'emprisonner.
Voilà, ouais. De l'emprisonner et de faire en sorte qu'il ne se propage pas dans l'ensemble de l'habitation et de fermer donc la porte derrière soi. La porte peut contenir le feu pendant 1 à 2 heures, c'est très important et c'est beaucoup plus que ce dont on a besoin pour nous, pour se présenter sur l'incendie et l'éteindre.
Oui. Voilà. À Paris, donc, c'est quoi, c'est 7 minutes à peu près.
Exactement, 7-8 minutes.
Quand on a
la
chance
en grande ville, ça va très vite. Donc fermer la porte derrière soi et se présenter à la fenêtre si toutefois on ne peut pas sortir de son appartement, parce que si le feu a lieu dans la cage d'escalier, eh bien il faudra ne pas emprunter cette cage d'escalier, rester chez soi et se présenter à la fenêtre.
Portes et fenêtres, emprisonner le feu. Voilà quelques-uns des conseils. Merci Gabriel Plus d'être venu dans notre studio, même si vous êtes d'alerte et votre téléphone reste toujours un peu branché. Merci Pascal Desgroux, excusez-moi, d'avoir été en duplex avec nous depuis le studio de France Bleu Nord. J'en profite pour remercier la technicienne Cécile Manois sur place. Et je rappelle à nos amis auditeurs que cette exposition sur le feu, c'est à voir absolument si vous êtes à Paris, bien sûr, à la Cité des Sciences, dans le parc de la Villette, jusqu'en janvier 2019. À lire aussi l'ouvrage qui l'accompagne, Feu, ami ou ennemi, point d'interrogation, aux éditions du Nord. Merci à Nicolas Benita d'avoir mis le feu dans cette émission, à Caroline Fiette de l'avoir fait couver en coulisses. À demain, amis auditeurs, le journal dans une minute. Priorité.